Elles sont des femmes, sénégalaises ou d'origine sénégalaise, aux profils divers et provenant de diverses classes sociales. Pendant une heure, et sur un ton intimiste, nous interrogerons avec elles leur place, de celle qu'on leur a assignée à ce qu'elles en ont fait, vie, parcours, conception du monde et des rapports sociaux. Je suis Zoubida Fall et vous êtes dans le podcast Conversations féminines. Parce que nous clôturons la première saison, il m'a semblé intéressant, important de revenir sur un certain nombre de choses. Pendant toute cette saison, nous avons entendu des femmes qui n'ont plus 20 ans en 2022. Et particulièrement aujourd'hui, je voudrais qu'on entende celles qui sont dans la vingtaine en 2022. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 20 ans en cette période? Du coup, avoir ce retour d'expérience-là, avoir cet autre regard-là, aujourd'hui, je suis avec Sorna Maguette et avec Ndeye Tal. L'une est déjà entrée dans la vie professionnelle, l'autre est encore étudiante. Bonsoir Sorna, bonsoir Ndeye.
Bonsoir.
Bienvenue dans Conversation Féminine. Vous allez bien?
On est là.
Je suis contente de vous avoir. Je suis super contente de vous avoir toutes les deux parce que vous êtes deux femmes que j'apprécie énormément, pour qui j'ai énormément de respect. Vous êtes belle, vous êtes jeune, vous êtes brillante et vous avez l'âge que je n'aurai plus. Donc, je suis jalouse un petit peu.
Merci beaucoup.
Ndeye, ça va?
Ça va super, et toi?
Oui. Ça fait quoi d'être là? Oui.
Ça fait très particulier d'être là parce que écouter tous les épisodes de la saison, se retrouver du coup dans le podcast sur une liste d'invités aussi impressionnantes sur les femmes aussi après des femmes aussi inspirantes, c'est incroyable. Et puis c'est une bonne occasion de discuter du coup avec toi, Sophia. J'ai hâte du coup de parler, c'est vraiment de faire cet épisode.
Merci beaucoup Ndeye. Sorna,
Je suis très contente aussi d'être là, parce que c'est un honneur quand même après les épisodes précédents, passer après toutes ces femmes. Et c'est une excellente idée aussi de donner notre point de vue, d'avoir 20 ans ou d'être dans la vingtaine en 2022, vu les réponses des anciennes, comme je les appelle, ou les doyennes, entre guillemets, parce que pour chacune dans leur domaine, elles sont les doyennes pour moi. Donc, c'est un honneur d'être là.
Alors, tout le plaisir est pour moi. Il y a quelque chose, moi je vous connais. Par contre, les gens qui vont nous écouter, certainement ce soir, ces jours-ci, toutes ces personnes qui vont nous écouter, en fait, ne vous connaissent pas forcément. Qui voudrait se lancer, genre, pour la... Si je dis, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me répondez? Ndeye, qu'est-ce que tu me dirais si je te dis, t'es qui?
Je dirais que moi, je m'appelle Ndeye Diombo Tal, j'ai 22 ans. Je suis une jeune femme sénégalaise qui est étudiante en sociologie, dont les centres d'intérêt sont souvent, on va dire, la politique, les questions liées aux droits des femmes, et on va dire tout ce qui est lié à la gestion de la vie en commun, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et oui, du coup, moi, c'est quelque chose c'est ce qui m'intéresse, ce qui m'anime, ce qui me passionne, on va dire, ce sur quoi j'essaie de me renseigner le plus souvent et ce sur quoi je discute le plus souvent avec les gens de mon entourage. Donc, on va dire que je suis aspirante à être une citoyenne, donc une personne active dans la cité. Je me définirai comme ça. C'est en tout cas ce que je cherche à être.
Merci. Sorna, comment tu te définirais, toi?
Alors, je n'aime pas cette question.
Ça, c'est vrai. C'est très compliqué.
Oui, parce que en fait, quand on répond à cette question, on se définit soit par rapport à nos parcours et nos parcours professionnels, je veux dire. Pour info, je suis ingénieure en génie industriel et je n'aime pas me définir en tant qu'ingénieure. Et quand je rencontre les gens, je dis que je suis une artiste. Et je pense que si je n'avais pas fait des études scientifiques, je serais artiste dans tous les domaines. Je m'intéresse à l'art, je fais de la peinture et je m'intéresse au sport aussi. J'ai 24 ans, donc je réponds vraiment en mode random. Et ce qui me passionne dans la vie, c'est le vécu des gens, écouter les gens et voir comment j'évolue aussi. Parce que je m'observe beaucoup et ça m'intéresse de voir plusieurs parcours, de me dire que c'est très intéressant de voir plus ces différentes perspectives, de se mettre à la place de ces des gens. C'est un peu de la philosophie, comme le disent certaines personnes, mais c'est plutôt le fait que je m'intéresse aux autres, je m'intéresse à leur vécu et j'aime écouter les gens.
Ouais, j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup, 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 beaucoup faire ça aussi. Ça me permet, moi, en tout cas, de me décentrer, de penser les choses à partir d'un autre point de vue. Et je sais pas, que ce soit Ndaï, que ce soit toi, vous avez toutes les deux, en fait, plein de points communs. Parce que d'ailleurs, de toutes les façons, c'est comme ça que je vous ai rencontrés plus ou moins. Vous avez des points de divergence, mais vous avez beaucoup de points communs. Aujourd'hui, la question que je vais vous poser à toutes les deux, c'est est-ce qu'à 20 ans, on a une place qui nous est destinée? Est-ce qu'à 20 ans? J'exagère quand je dis est-ce qu'à 20 ans, parce qu'elles ont toutes les deux dépassé la vingtaine. Mais oui, est-ce qu'avoir être dans la vingtaine, on a une place qui nous est déjà destinée, que ce soit en tant que femme, en tant que Sénégalaise, en tant que noire, tout court?
Je sais pas si là, tu veux répondre en première.
Ouais, je vais me lancer.
Vas-y.
Pour moi, la vingtaine, c'est on apprend à on se cherche. Parce que pour moi, c'est une décennie de l'apprentissage. Et toutes les certitudes, entre guillemets, qu'on s'était forgées durant l'adolescence, en disant j'ai hâte d'atteindre 25 ans, je vais avoir un boulot, je vais avoir une maison, je vais avoir une voiture, je vais être mariée, je vais fonder une famille. On entre dans la vingtaine, on se rend compte, en fait, non. Toutes les illusions, on pose de côté, on se rend compte que là, on devient adulte. Pour moi, on n'est pas encore adulte comme on le définit, mais on entre dans l'âge adulte et on se cherche, on tâtonne, on fait des bêtises, on s'en veut, on culpabilise, on se remet en question, on remet en question nos choix de parcours et on se dit, mais est-ce que je suis à la bonne place? Et toutes ces questions-là, moi, quand j'y réfléchis, je me dis, j'ai encore le temps. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais je me dis, j'ai encore le temps de me chercher. Je vais me trouver peut-être quand je vais sortir de la vingtaine. Mais en tout cas, c'est un moment pour moi de me chercher, de trouver. Pour moi, je ne me suis pas encore trouvée.
Je comprends.
Moi, je suis
D'accord.
totalement d'accord avec ce que Sarna vient de dire. Moi, je dirais que la vingtaine, par rapport à la question, c'est plutôt le moment où, ouais, effectivement, où on se cherche. Et pour moi, ça a été particulier parce que j'avais justement cette impression que toute ta vie, tu as ta place, en fait, et que tu suis un chemin qui est assez clair. Et du coup, je me rappelle, en étant adolescente, du coup, 17, 18 ans, quand je passais mon bac, d'avoir une certaine arrogance, une arrogance qui n'était pas accompagnée de confiance en soi, mais une arrogance de me dire que je sais où je vais, je sais ce que je veux faire, et ça va se passer comme ça. Et en fait, plus tu grandis, du coup, quand je suis rentrée dans la vingtaine, tu te rends compte que, en fait, non, ça se passe pas comme ça. La place que tu t'es fantasmée dans ta tête, déjà, elle n'existe pas, tout court, pour que tu puisses même l'occuper. C'est quelque chose qui n'existe pas, un train de vie qui suit toutes les étapes comme ça devrait se passer, que tu prévois on va dire, de faire cette école-là, de faire ce diplôme-là, de faire, comme tu as dit, le mariage, les enfants à cet âge-là, à ce palier-là, de se fixer des étapes comme ça. Tu te rends compte qu'en fait, le temps passe. Excuse-moi.
Vas-y, il n'y a pas de
Tu te
souci.
rends compte en
Non,
fait
ne
que
t'en
le
fais
temps
pas.
passe, que tu sois prête ou pas, le temps avance, le monde autour de toi tourne et que c'est à toi de naviguer le temps. En fait, que le temps ne t'attend pas, que les choses ne vont pas dans ton sens. Donc, la vingtaine, se rend compte que tu es obligée de te créer ta place et que cette place ne va pas t'attendre. Je pense qu'il y a ça aussi dans la période de rechercher sa place. C'est pas tellement la chercher que se la créer. Et ouais, c'est comme ça que je résumerai en tout cas le sentiment d'être dans sa vingtaine.
All the guys gonna find me. space for nobody only. Don't be saying I be Johnny Barty. I got issues, girl. I made you cry and I gave you tissues. After that, I kissed you. Then we made sweet love like we always do. You say I let you on. You said before long we were having fun. Then suddenly the love came.
Je me souviens pareil, hein, quand j'avais 20 ans, j'étais assez téméraire, assez, on va dire, extrêmement sûre et, oui, limite arrogante sur, comme tu l'as dit, d'ailleurs. Mais en vrai, il y a des moments où tu t'assois, où tu te dis, je suis en train de louper quelque chose. Il y avait une sorte de peur qui pouvait arriver, mais qu'on fait taire très vite, en règle générale. Comment vous l'avez vécu? Parce que vous, je trouve quand même, peut-être que je suis une vieille réac, mais je trouve quand même que vous avez eu 20 ans à un moment, on va dire, extrêmement particulier. Vous avez eu 20 ans en plein Covid, déjà. Vous avez eu 20 ans à des périodes où, en tout cas, pour nous, Sénégalais, vous êtes dans la période où Internet a complètement explosé, c'est accessible partout. Vous avez vécu toutes vos vies en connaissant toutes vos vies. Oui, à peu près, en connaissant ce qu'était un smartphone. Ben, vous avez des photos numériques de vous, enfant. Maintenant, ça a l'air de rien, mais c'est vrai. Vous avez des photos numériques de vous, pas des photos papier, des photos numériques de vous, enfants. Comment, est-ce qu'il y a une angoisse? Parce que moi, j'ai vécu cette angoisse-là vers la vingtaine, une légère angoisse, cette peur de ne pas trouver ta place, d'avoir rêvé un certain nombre de choses, de te rendre compte que ces choses ne se réalisent pas, de devoir te poser un certain nombre de questions, de devoir faire certains choix et de te prendre quand même pour quelqu'un qui a 25 ans que tu n'as pas. Vous vivez, ça vous est arrivé, comment vous l'avez vécu?
Alors, moi, je vais commencer, Nel, si tu veux. J'ai eu cette angoisse quand, après mon bac, je voulais être neurologue et j'ai fait les prescriptions à Dakar et en même temps en France. Et les résultats, malheureusement, ne sont pas tombés à temps, donc je suis arrivée ici avec un mois de retard en France. Et j'ai eu les résultats 3 jours après. Et c'était soit je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec la médecine, ou je remballais mes bagages et je retournais au Sénégal, je fais la médecine. Et cette décision, je me suis dit, si je suis là, c'est pour une raison. Donc, je ne vais pas tout remballer et partir. Mais plus j'avançais, plus j'avais des doutes et je me disais, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Arrivé au niveau du choix professionnel pour continuer, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, parce que je me projette sur le long terme, je me dis, mais ce que je fais là, est-ce que ça me correspond? Est-ce que je ne vais pas regretter mon choix d'être restée en France? Et sur plusieurs choix personnels aussi dans ma vie, des fois, je me dis, je prends cette décision, mais comment ça va se passer? Concernant les réseaux sociaux, c'est pareil. À un moment, je me suis dit, on ne se rend pas compte que nous, on a grandi avec les smartphones, avec on s'expose. Et je me pose des questions, si on n'avait pas les téléphones, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on ferait? Et j'angoisse parce que je me dis, je pose mon téléphone une journée, je vais essayer de me concentrer chez moi pour réfléchir à quelle activité je peux m'intéresser, même si j'ai d'autres activités, je vais angoisser parce que je n'ai pas mon téléphone sur moi. C'est comme si quelque chose n'était pas présent. Et je me rends compte de comment on est attaché aux réseaux sociaux. C'est comme si c'était notre vie qui se passait dedans. Et même si c'est que du virtuel, je me demande est-ce que c'est bien ou pas. Parce que pour moi, on passe à côté de quelque chose. On aurait pu s'intéresser à d'autres activités comme la lecture ou faire des recherches ou des travaux manuels. Mais en même temps, je me dis, mais on avance, on évolue. Qu'est-ce que ça nous fait? C'est une angoisse. J'ai l'impression de perdre un peu du temps sur les réseaux sociaux. En même temps, si je me détache des réseaux sociaux, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc, il y a cet équilibre qu'on n'arrive pas à trouver et qui est très angoissant des fois.
Oui, j'entends. Ndaï, tu ressens l'angoisse?
Par rapport aux réseaux sociaux, en réalité, je ne me suis pas beaucoup posé la question parce qu'encore une fois, je pense que c'est quelque chose avec lequel on a grandi et du coup, avec lequel on a tendance à le naturaliser en fait dans notre vie de tous les jours, à l'utiliser comme un outil qui est censé être là. Et à aucun moment, du coup, c'est plus récemment que je me suis posé cette question-là, parce qu'en réalité, l'utilisation que j'avais des réseaux sociaux, c'est plus dans un cercle social avec des personnes que je connaissais dans la vraie vie, avec mes amis, les gens avec qui j'étais à l'école, ma famille, etc. Mais c'est du coup pendant le Covid que ça a pris, que j'ai pris une autre utilisation des réseaux sociaux, parce que justement, comme tout le monde était enfermé, etc., tout le monde se retrouvait, on va dire, sur les mêmes endroits. T'as pu créer des connexions avec d'autres personnes en étant enfermé, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai eu une utilisation plus large, on va dire, des réseaux sociaux, plus prononcée aussi, ce qui est peut-être aussi un problème, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est beaucoup intensifié, je pense, depuis 2020. Je pense que je ne vais pas être la seule à avoir remarqué ça. Et l'angoisse, en général, des questionnements de la vingtaine, où j'ai été confrontée à se rendre compte que tu es ta propre personne, que tu as tes propres envies et que tu as tes propres idées de où est-ce que tu voudrais être et ce que tu devrais être et qui tu devrais être. Et tu confrontes ça lorsque tu te rends compte de cette envie du coup qui grandit en toi puisque tu développes ta personnalité, qui tu veux être, qu'elle est parfois pas en accord, pas exactement avec ce que les gens voudraient que tu sois, mais avec ce que tu penses que les gens voudraient que tu sois. Et ça, c'est une différence que j'ai réalisée assez récemment, on va dire, sur le parcours, la trajectoire académique et professionnelle. Moi, j'ai fait une terminale S. J'ai eu une bourse de l'ambassade de France pour faire une prépa, HEC à Paris, mais j'ai décidé de faire un parcours plus pluridisciplinaire. Et je me suis rendu compte, lorsque j'ai commencé mes études, je suis allée en ayant comme objectif de faire quelque chose dans les maths ou l'ingénierie ou faire de la recherche en maths, etc. Et du coup, des trucs très dans les sciences traditionnelles, entre guillemets. Mais justement, en étant ouverte à d'autres choses, tu te rends compte qu'il y a d'autres raisons dans la vie. Déjà, ça, c'était le premier point. Du coup, je découvre les sciences sociales. Et je me rends compte qu'en fait, je veux faire des sciences sociales et je veux pas du tout faire des maths, de la physique, etc. Ça te casse un peu quand tu te construis une image de toi dans un premier temps qui est la fille scientifique qui va essayer de faire ingénieur, qui va faire des maths, etc. et que tu te confrontes à devoir du coup renvoyer une image qui n'est pas celle que les gens avaient de toi, qui n'est pas ce que les autres attendaient de toi. Tu dois leur pas les persuader mais leur expliquer que en réalité je me suis rendu compte moi-même que c'est pas cette personne-là que j'étais, qu'en réalité c'est ça que je veux faire. Et parfois, ça peut créer des frictions. Du coup, les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé. Ou ils comprennent aussi que, tout simplement, tu te découvres et tu prends pas forcément les voies que tu t'étais toi-même destiné et que eux te voyaient prendre. Donc, ça peut aussi être à l'origine de beaucoup d'angoisse, mais c'est une période où du coup, tu apprends à t'affirmer dans ces choix-là. Et je pense que c'est juste le moment où tu te forges ta personne propre, en fait. Et ça peut être très, très perturbant.
Et je voulais rebondir sur ce qu'on a dit, parce qu'effectivement, actuellement, depuis que avant que je fasse ma soutenance pour avoir mon diplôme, je commençais à me remettre en question, parce que je me suis rendu compte que j'étais tellement passionnée par la littérature que j'ai commencé à remettre en question ce choix scientifique que j'ai fait. Et quand j'ai retracé mon parcours depuis le collège, je me suis rendu compte que j'ai toujours aimé la littérature, les lettres, et je me suis demandé mais à quel moment je me suis loupée pour avoir fait un choix scientifique. Et est-ce que ce choix, c'est moi-même qui l'ai fait? On ne m'a pas demandé, on m'a dit tu pars en CS scientifique, tu n'as pas ton mot à dire. Et là, je suis en train de me tâter, est-ce que je me lance, j'arrête tout, je laisse tout de côté, je me lance dans la littérature complètement, ou je balance entre les deux. Parce qu'il y a ce fait aussi que fini, tu fais un bac plus 5, tu te dis j'ai quand même sacrifié 5 ans de ma vie dans des études scientifiques, que finalement tu aimes. En même temps, il y a le côté littéraire, c'est un choix, ça veut dire recommencer à zéro, ou repartir à zéro, et je ne sais pas. Là, j'angoisse complètement parce que je me dis, c'est un choix. Est-ce que je suis capable de me lancer? ou est-ce que je fais les deux, ou est-ce que je me résigne et je reste sur ce choix-là que je découvre finalement ne me satisfait pas ou je ne suis pas complètement épanouie là-dedans.
Oui, j'entends. J'entends parfaitement. Et ça me donne envie, j'ai plein de questions dans la tête. Je vais essayer de les sortir une par une. Quand je vous entends, à quel moment, est-ce que c'est pendant ces choix-là que vos parents se sont rendus compte que vous étiez des adultes? Parce qu'on a votre perspective à vous, mais à quel moment vos parents se sont rendus compte que vous étiez des adultes? Ça, c'est ma première question. Sorna, on va d'abord partir sur celle-là, d'abord. À quel D'accord. moment vos parents se sont rendus compte que vous étiez des adultes? Ou est-ce qu'ils s'en sont encore rendus compte ou pas?
C'est ça la question, je pense. Ouais,
justement, moi, j'allais dire que je ne pense pas qu'ils se rendent compte qu'on est des adultes. Parce que, personnellement, quand j'ai fini mon BTS, mon père, il a voulu que je fasse une prépa ATS, que je fasse une licence en chimie, que après je continue dans les doctorats. Et lui, il a toujours aimé avoir un enfant qui fasse de la biologie. Donc, il m'a même amené, il m'a payé un summer school aux Pays-Bas pour que je fasse de la biotechnologie. Et j'étais là-bas. Ce séminaire-là, je l'ai regretté parce que je n'ai pas visité la ville. J'étais pas contente d'être là. C'était mon anniversaire et je l'ai très mal vécu. Donc, j'étais là. Mais je fais quoi ici, en fait? Oui. Et je me suis révoltée. Je n'ai pas fait la prépa ATS. Son dossier, je crois que je tiens toujours le dossier. Je ne l'ai jamais déposé. Et je suis partie en cycle d'ingénieur génie industriel. Et je pense que c'est là où il a eu le déclic de se dire que bon, celle-là, je vais la laisser faire son choix. Mais il y avait toujours ce côté où non, il ne faut pas faire ça. Il y a ça, ça, ça. Essayez toujours d'avoir cette influence sur nous pour diriger nos choix. Et à un moment, c'est révoltant, mais je ne pense pas qu'ils se rendent compte qu'on est des adultes.
Oui,
moi, je pense non, que c'est une question qui est assez compliquée. Quand on a posé la question, on s'est dit, mais est-ce que vraiment on me voit comme vraiment une adulte? Je pense qu'il y a un truc particulier qui se passe lorsque tu es dans cette vingtaine-là, que tu es sénégalaise, mais que tu vis à l'étranger. C'est que tu as, on va dire, un quotidien d'adulte parce que tu vis seul, tu es obligé de vivre ta vie au quotidien seul. Mais quand tu reviens, par exemple, tu restes l'enfant de tes parents, quoi. Quand tu reviens à la maison, c'est le même quotidien. Mm-hmm. Et puis, tu prends tes décisions toi-même en consultation avec tes parents. Moi, j'ai pas eu... on m'a laissé beaucoup de liberté sur les choix que je voulais faire au niveau de mon orientation ou des choses comme ça. C'était plus moi-même qui me mettais la pression de qu'est-ce que je pensais qu'ils allaient penser de mes choix.
Qui allait en dire, oui.
Mm-hmm. Oui, exactement. Et du coup, ouais, je ne suis pas certaine que c'est encore très clair, on va dire. Je suis dans un entre deux. Parce qu'en plus, je fais partie des... je suis la seule fille de ma mère et je suis la deuxième plus petite. Du coup, je pense qu'il y a encore beaucoup cet attachement-là à... Bah, on est les petits de la maison, j'ai deux plus grands frères, du coup, c'est...
Et on vous appelle toujours Khalil, c'est ça?
Je ne suis pas sûre que je serai jamais vraiment... J'aurais vraiment cette impression d'être traitée en tant qu'adulte. Et moi-même, je ne sais pas à quoi ça ressemble en réalité. Je pense que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que tu deviens adulte en ne sachant pas ce que c'est réellement d'être adulte, parce qu'on a un fantasme de ce qu'est la vie d'adulte. Moi, je ne saurais pas te dire qu'est-ce qui constitue la vie d'adulte. Est-ce que c'est parce que tu payes ta facture? Est-ce que c'est parce que tu travailles? Est-ce que c'est parce que tu es marié? Est-ce que c'est parce que tu vis seul? Je ne sais pas. Ouais. En réalité, dans les subtilités de qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a un cahier des charges à remplir pour
dire, et des cases à cocher.
Je considère comme une adulte.
Mais, en plus,
moi, par exemple, vas-y.
Ouais. Oui. Vas-y, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que c'est contradictoire, les parents, leur façon de voir les choses, parce que, typiquement, au Sénégal, on va te préparer à gérer une maison si tu es une fille, à savoir faire des tâches ménagères. À un moment, tu vas recevoir des remarques de Magum Djemmengalegi. Tu dis OK. Il y a des choses, il y a des comportements, tu ne peux pas les avoir, OK. Mais quand il s'agit de prendre des décisions sur ta vie, alors là, tu n'es plus l'adulte. Et c'est très contradictoire. Et à chaque fois que je me jouais la scène, je me disais, mais à un moment, il faut se décider. C'est quoi être adulte? Effectivement. I'm giving you a night call to tell you how I feel.
J'étais petite, j'avais, on va dire, allez, 8-9 ans. Pour moi, être adulte, c'est quand tu rencontres tes amis, tes cousines, tes machins, et que vous wartan, vous faites rien de wartan. Parce que le concept de wartan, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Comment des gens pouvaient juste s'asseoir et sauter d'un sujet à un autre. Et je ne voyais pas des enfants qui wartan. Vous avez déjà vu des enfants qui wartan, comme on le fait ici. Vous voyez parce que moi, pour moi, quand je voyais... Exactement, quand on était petit, on jouait. Et pour moi, j'étais convaincue que je serais arrivée à l'âge adulte le jour où je pourrais m'asseoir et on va wartan. Et ça, c'est en vous écoutant parler que ça m'est revenu. Ça fait des années que je n'ai pas repensé à ça. C'est assez impressionnant. Et là, je me retrouve à faire des conversations. Je crois que je suis arrivée à l'âge adulte, là, maintenant.
Là, mon adulte est certifié, professionnellement.
Non, mais sérieusement, je n'avais jamais pensé ça. Si ma mère m'entend, elle va me dire, ouais, ça n'a pas changé, par contre, ça n'a pas. Mais... Non, mais c'est exactement ça. Donc oui, moi, je me rappelle de l'enfant que j'étais qui imaginait qu'être adulte, c'était ça. Mm. Et voilà, pendant toutes ces années, je ne me suis pas aperçue. Quand j'étais adolescente, c'était très clair pour moi de quand tu serais, quand j'aurai 20 ans, je ferai ci, je ne demanderai plus la permission pour sortir, je pourrais faire mes choix, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et ouais, il y a une arnaque derrière. Donc, finalement,
mais
c'est quoi?
L'arnaque est encore pire quand les mères, par exemple, te disent durant l'adolescence, tu ne dois pas avoir de copain, ils t'interdisent d'avoir un copain. Tu arrives dans la vingtaine. Oui, mais quand il me présente, c'est ce qu'il a dit. Et tu te dis, mais tu ne peux pas faire quoi? Aucune condition, rien du tout. Et elle commence à te dire, Samorom, you can say, tu as vu tes cousines qui commencent à se marier, tu me présentes qui? Mais yo, à mon copain. Et tu dis, mais c'est brutal quand même la transition.
Ah oui, et ça nous permet justement de faire une transition super brutale. Vas-y, Ndaye, d'abord.
Non, mais je disais, c'est quand on a allumé enfin.
Sur la transition, sur le fait qu'on te considère comme un enfant et qu'à partir d'un certain moment, dès que tu entres dans l'âge adulte,
sur ce que Sorma disait de oui, effectivement, des choses qu'on interdit et tout d'un coup, c'est censé apparaître de nulle part. C'est quand petit à petit, c'est il y a 2 ans, du coup, ouais, quand j'ai eu 20 ans, que pour la première fois, soit aux anniversaires, soit au comité tabaski, etc., tu n'es ni un al, quand les tantes te font des prières, ils ont commencé à mettre dans les prières, j'espère que tu auras un bon mari. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais. Waouh, comment ça, moi, je suis en position de qu'on me souhaite un mari. Et il y a aussi la différence aussi d'avoir 20 ans en 2020, c'est que moi, ma mère s'est mariée à 19 ans. Et là, c'est des choses qui, c'est présent effectivement dans les discussions de temps en temps, mais c'est effectivement plus tard qu'on va apporter cette pression-là. Moi, j'ai 22 ans. Là, ça commence à arriver un peu plus. Mais je pense que ça aurait été très différent dans une autre époque d'avoir 22 ans et de ne pas souvent parler de mariage aussi.
Comment vous vivez ça? De commencer à sentir ces remarques, ces injonctions à entrer dans le moule, à être ce qu'une femme sénégalaise est censée être. Parce que peu importe notre niveau, on va dire, de déconstruction, il arrive un moment où on nous demande d'entrer dans le moule, de se marier, de faire des enfants. Parce que sans ça, nous ne sommes pas accomplis en tant que femmes.
Alors, nous... Je parle pour moi et ma petite sœur. On a 1 an d'écart. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue à 13-14 ans avec un ami de ma mère qui est venu à la maison. Et ma mère, elle est divorcée. Et le gars, il lui dit, Oui, mais tes filles, là, elles pensent qu'elles vont se marier à 20 ans, il faut qu'elles commencent à se préparer, à savoir gérer une maison. Bon, au Sénégal, quoi. Et ma petite sœur et moi, on lui a répondu, mais pourquoi on a besoin de se marier à 20 ans, 21 ans? Nous, on peut bien, très bien s'en sortir sans un homme. Et il était choqué. On lui dit, mais oui, nous, on veut juste étudier, réussir, parce qu'on a déjà un exemple, on a notre mère qui s'en sort très bien. Pourquoi on a besoin de se marier à cet âge-là? Et il ne savait pas à quoi répondre. Donc, la pression de se marier à 20 ans, enfin, de l'autre côté de la famille, il y avait cette pression, mais nous, on se disait, c'était normal déjà très, très tôt. On se disait, on va pas se mettre la pression. Il y a déjà ma petite sœur qui s'est faite sa propre idée, qu'elle va se marier, faire un gosse et après disparaître parce qu'elle n'a pas envie de rester dans un mariage. Et on se taquine parce que là, elle me dit, j'ai toutes les filles de ma promotion qui se sont mariées et elle me dit, Khaleyang, on parle comme si on faisait pas partie des Khaleyi. Donc on dit très bien, on se met pas la pression pour ça.
Ouais, je vois. Merci, Sorna.
Ouais, non, un peu
Dai,
pareil.
vas-y.
En réalité, c'est quelque chose qui vient pas de ma famille, de mes parents. C'est une discussion qui revient très peu souvent en réalité. Donc, c'est plus, comme je disais, dans ces trucs-là, quand il y a un événement ou des trucs comme ça, qu'on te le rappelle de façon plus ou moins subtile, mais on va dire qu'on plante la petite graine. C'est une impression de, ok, on ne me le dit pas frontalement, on n'en discute pas, mais c'est quelque chose qui est attendu de moi, effectivement, à un moment donné. Et on va dire que pour l'instant, je suis plus dans un déni de toute façon, moi, je suis encore étudiante. Donc, je pense que ça joue aussi sur le fait que
Oui.
c'est pas une question qui est imminente parce qu'on s'est toujours dit de toute façon, tu finis tes études, tu trouves ta situation parce que tu ne veux dépendre de personne. Donc, tu te construis toi-même avant de rentrer dans un collectif de mariage, de je sais pas quoi. Et du coup,
Clairement.
c'est quelque chose c'est plus en toile de fond, mais c'est une toile de fond qui peut parfois ressurgir et faire un peu peur et te dire, ah oui, je suis arrivée à ce moment-là. J'y arrive petit à petit, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui me préoccupe pas trop. J'essaie de pas trop y penser.
Quand vous vous rêvez adulte, quand vous vous rêviez adulte et que vous êtes adulte maintenant, est-ce que dans vos schémas, il y avait aussi cette partie-là? Parce que j'ai l'impression que l'injonction au mariage est très profondément ancrée en chacune de nous. Et que des fois, ça entre même dans nos rêves, où on va se projeter en se disant, on se voit avec un mari, tant d'enfants. Est-ce que vous aviez ce rêve-là en vous ou pas?
Oui, moi personnellement, je l'avais.
Sorna, oui.
Je l'avais et plus j'avançais, plus je me dis, bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'ai commencé à remettre en question le mariage. Et là, depuis que j'ai commencé à travailler et que je vis seule, que je me sens bien, je me dis, mais en fait, ça va être chaud quand même de se marier ou d'avoir des enfants. Parce que franchement, j'imagine le quotidien avec un mari et des gosses, je me dis, est-ce que je suis vraiment prête à partager déjà mon environnement avec quelqu'un? Mais c'est vrai que je me reporte là à 14 ans, 15 ans. C'est quelque chose, on grandit comme ça. Parce qu'on commence la puberté, on te dit, oui, tu vas être une femme, tu es amenée à gérer une famille, à te marier, et il n'y a pas un autre choix sur la table. Le choix qui est posé, c'est que tu dois te marier, tu vas avoir un gosse. Donc, il faut se préparer mentalement à ça. Donc, qu'on le veuille ou pas, on l'intègre.
Clairement.
Moi, quand j'étais petite, c'était plus un truc très arbitraire, vous savez, la barre des 25 ans. On ne sait pas pourquoi des 25 ans, mais c'est un
Il
truc
faut
très
demander,
arbitraire. Et
hein.
dans ma tête, tu te
Ouais.
dis, 25 ans, tu te maries, et après tu te dis, non, mais des trucs, je ne veux pas avoir une trop grande différence d'âge avec mes enfants dans l'hypothétique mariage, du coup, il faut avoir ses enfants vite pour pas avoir trop de
On nous
différence
met
d'âge,
ça
pour être
aussi,
une maman
ouais,
cool,
c'est clair.
etc. Tu vois,
Ouais.
c'est des trucs que tu te dis. Puis en réalité, plus tu grandis, plus tu te rapproches fatidiquement des 25 ans et tu te dis, ça va pas être possible déjà de un, techniquement, de deux, tu n'as pas envie forcément. Et en réalité, même quand tu te projettes dans le mariage, tu as cette idée du mariage, mais en réalité, tu sais pas qu'est-ce que ça implique réellement. Tu sais pas, tu
Ouais.
connais les seules personnes mariées que tu connais, c'est tes parents. Du coup, tu te dis, bah, c'est juste la norme, en fait, c'est papa, maman. par exemple, ou bien les gens que tu as dans ton entourage, puis quand tu grandis, puis tu découvres des choses qui se passent à l'intérieur du mariage, qu'est-ce qui se... les problèmes qui vont avec le mariage, je sais pas ce que beaucoup de problèmes, moi en tout cas c'est le premier truc qui me vient en tête maintenant quand je pense mariage, je pense problème. Et je pense que du coup dans ma vision maintenant de la vie, c'est toujours quelque chose qui est très très ancré et je pense qu'il pourra pas être désancré de moi que j'ai envie de me marier à un moment donné. Mais c'est quelque chose qui est maintenant soumis à beaucoup, beaucoup, beaucoup de conditions de... il faut que ça se passe ça, 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 ça. C'est encore très hypothétique. Je pense que je suis encore dans un truc où je fantasme encore beaucoup de choses. Mais en tout cas, j'ai mon petit cahier carnet là où je mets des...
où tu mets tes notes.
Où j'ai des bullet points là où je mets des notes.
Exact.
Ça ne peut pas se passer comme ça. Si ça, ça se passe même, je pars. Si ça ne se passe pas comme ça. Tu vois, c'est encore un truc qui est très fantastique.
Exactement. Je pense
que même pour les personnes qui se marient, je pense que quand tu es dedans, que tu te rends compte de... bon, les exigences ne se passent pas forcément comme ça, la réalité ne se passe pas forcément comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a très peu de choses en réalité que tu peux bien appréhender dans la vie et que tu peux te préparer à attaquer de plein feu, en fait. Tant que tu ne l'as pas vécu, ça sera compliqué. Mais en tout cas, en attendant, je me fais mon idée dans la tête qui est encore très fantasmée, mais elle est encore là. Et je pense que c'est très influencé, évidemment, par... depuis que tu es petite, on te dit que tu dois te marier. Parce que dans la religion, se marier, c'est la moitié de ta religion.
Du dîme, de ta religion,
C'est quelque chose qui est, pas, qui est difficile à désancrer. Est-ce que ça a désancré? Je ne suis pas certaine de ça, d'ailleurs, mais en tout cas, qui ne bouge pas.
Oui. Ça, par exemple, moi, j'ai découvert qu'un couple pouvait se disputer en me mariant moi-même. Tu vois? Donc, et du coup, et ça, je le dis à chaque fois. Et à chaque fois, mes parents sont morts de rire à chaque fois que je dis un truc comme ça. Et du coup, par exemple, la première fois où j'ai eu une dispute, je croyais que c'était la fin de ma vie. Et j'ai parcouru tout ce que je savais de la vie de mes parents, tu vois, tout ce que je savais de la vie de mes parents. Et je suis allée les voir en leur disant, de toutes les façons, c'était fini. Parce que, on s'était disputé. Et tous les deux, ils me regardent parce qu'ils ne comprennent pas, en fait. Ma mère, elle passe son temps à me dire, mais en fait, dans un diek que tu mousses, mais vraiment, c'est compliqué pour toi. Ça veut dire... pour ceux qui ne parlent pas wolof, ça veut dire qu'en fait, j'ai l'air super intelligente, mais il y a des jours où laisse tomber. Et oui, et donc moi, c'est cette notion du couple-là. Et du coup, quand j'ai dû vivre mon couple, moi, j'ai dû réapprendre complètement. Et c'est là où tu te rends compte que toutes ces notions ou bien la manière que tu avais de voir tes parents interagir peut ne pas être forcément la tienne, qu'on va ramener un certain nombre de traumas, un certain nombre d'incompréhensions, une certaine manière de faire. Et qu'au final, on va construire un petit peu sur tout ça, sachant que tu l'as dans ce cas précis, tu n'es pas la seule à ramener des choses, en fait, parce que la personne avec qui tu vas te marier aussi va ramener tout un bagage, que ce soit un bagage émotionnel, un trauma générationnel, une manière de voir. Et à partir de là, partir sur une sorte de construction où nous ne sommes pas préparés. Ma conviction, c'est que nous ne sommes pas préparés. Nous sommes préparés à tenir un foyer en tant que femme. Vous me direz si c'est le cas pour vous. Mais en général, est-ce qu'on vous prépare réellement à comment ça se passe, comment on déjoue un certain nombre, comment on vit à deux, tout simplement? Je ne sais pas si vous avez reçu cette éducation. Moi, je ne l'ai pas reçue. Comment on vit à deux? Et les personnes que je connais autour de moi ne l'ont pas forcément reçue.
Pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, non. Et justement, quand tu parles des traumas à gérer dans le couple, c'est aussi une question qui est venue sur... quand j'ai commencé à questionner ce besoin ou cette idée de se marier, je me suis dit, on se rend compte, moi personnellement, je me suis rendu compte dans la vingtaine que il y avait beaucoup de choses à régler avec moi-même. Est-ce que cela, cette prise de conscience-là, tout le monde l'a quand on entre dans le mariage? Je ne pense pas. Et on se rend compte que ce travail-là, pour moi, c'est à faire avant de s'engager avec une autre personne avec qui on va partager un certain bagage émotionnel. Et on se rend compte qu'on n'a pas eu cette éducation de c'est quoi un couple, c'est quoi vivre à deux, comment on vit à deux. Et pour moi, même si on reçoit cette éducation-là, ce sont des choses qu'on peut expérimenter. Ce sont des choses qui s'apprennent sur le tard. On ne peut pas, on a beau se préparer, comme je le dis, j'ai beau travailler sur mes traumas, régler des choses avec moi-même, je ne sais pas avec qui je vais être. Cette personne-là, je ne sais pas quelle blessure elle peut réveiller. Donc, c'est quand on va être à deux et qu'on va vivre ensemble qu'on va se dire, OK, si on a cette maturité-là, c'est bien d'accord. On pose les choses sur la table. Comment on fait pour gérer? Comment on fait pour dealer à deux? Parce que recevoir l'éducation avant le mariage, c'est comme si on se préparait à vivre avec n'importe qui, alors que chaque personne est différente.
Oui.
Oui, non, clairement, c'est quelque chose aussi qui dont je ne me souviens pas avoir discuté avec qui que ce soit, ou que ce soit quelque chose auquel on te prépare. Enfin, j'imagine le détour d'une phrase, c'est quelque chose qui revient de comment est-ce que tu dois composer avec les différentes personnalités des gens, quelque chose comme ça. Mais dans le fond de cohabiter, de passer toute ta vie avec une personne, c'est quelque chose qui, non, c'est vrai, est très peu abordé en réalité quand on parle de mariage. Après, encore une fois, moi, on me parle très peu de mariage en réalité. Ouais. C'est plus l'ambiance générale où genre... rien que quand tu discutes avec tes amis, maintenant, un truc qui n'arrivait jamais, c'est que, oui, telle personne va se marier, telle personne qui a deux ans de différence que nous, quelqu'un qui a notre âge qui va se marier, ouais, il y a le mariage de la dernière fois, des trucs comme ça. C'est plus dans l'ambiance globale que la question du mariage s'est imposée dans la vie, ou ne serait-ce que dans des discussions mondaines, dans des discussions normales avec des gens, quand tu discutes avec des gens que tu connais pas, on va te dire, ouais, toi, qu'est-ce que tu attends du mariage, des trucs comme ça, alors qu'avant, ça n'arrivait pas. Mais en réalité, chez moi, c'est quelque chose dont on parle très peu souvent, donc auquel je suis assez peu préparée, où on est plutôt dans un truc de quand ça arrivera, on gérera ça. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui reste en train de faire.
Proper, no lie, give me strength, let me prosper. Daddy say he want me to be lawyer, be doctor, riff raff, kiddy con, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie, bougie, akile, oh I fancy when I see a type.
One time kill, if I born it, it's mine. You can't stop me, hey, you can't stop me, oh, you can't stop me. One time kill, you can't stop me, oh.
Et oui, ça me permet de faire la transition parce que depuis tout à l'heure, nous parlons de la place qui nous était destinée, de la place que vous êtes en train de vous faire dans la vie, de trouver vos marques, que ce soit de manière personnelle, que de manière professionnelle, que ce soit dans vos vies personnelles, d'appréhender un certain nombre de questions qui vont traverser en fait toute votre vie de bout en bout parce que, encore une fois, quoi qu'on en dise, la question en tant que femme pour le mariage à un certain âge revient très souvent. Mais moi, c'est que ça me donne envie de me demander, quelle est votre définition d'être une femme? Pour chacune de vous, c'est quoi être une femme? Parce qu'on a dit ce qu'une femme devait être, comment on la voyait, comment on la percevait, comment on l'éduquait, quelle place elle était. Mais c'est pour vous, c'est quoi être une femme? Mais de manière totalement personnelle. Hein?
Alors, pour moi, être une femme, c'est être un être humain libre. Oui. Libre dans la tête et libre dans ses actes. Qu'on ait le choix de prendre des décisions sans pour autant avoir l'accord de qui que ce soit. Que l'on puisse vivre épanoui, faire le choix, par exemple, de se marier ou pas, sans pour autant que les jugements externes l'impactent. Avoir le choix de vivre comme on le sent, en fait. Ça rejoint la question de la liberté. Pour moi, c'est ça, être une femme.
Moi, je pense que c'est sur cette question-là que je vais commencer à tomber dans mes travers de sciences sociales, tout ça, là. Parce qu'en réalité, la question...
Mais tombe
plaisir.
Une fois qu'on a parlé du fait de ce qu'on attend d'une femme, ce qu'on considère être une femme dans les caractéristiques, dans le portrait qu'on dresse d'une femme, qui en réalité ne correspond à aucune femme de la vraie. C'est vraiment un idéal type d'une femme qu'on retrouve très très peu, qui n'existe pas en réalité, c'est unicorne. La femme sénégalaise, la femme, en général, c'est unicorne. On ne va pas croiser, tu vas croiser peut-être un être humain qui tourne avec une corne, tu vas peut-être trouver un centaure là-bas, mais la licorne, là, tu la verras jamais. Et donc, quand on se pose la question du coup de qu'est-ce que c'est réellement être une femme, c'est pas plus compliqué pour moi que être une personne humaine de genre féminin. De genre féminin. C'est pas plus compliqué que ça parce que une fois qu'on rentre dans ça, on se rend compte que être une femme, en réalité, moi en tout cas, le moment où j'ai commencé à dire je suis une femme, déjà, le passage de. Tu passes de. Quand tu parles de toi-même et de tes amis, tu dis fille, au moment où tu passes à femme, c'est parce que tu es perçue comme femme. Moi, c'est parce qu'un jour, on m'a adressée comme madame, parce qu'un jour, on m'a adressée, oui, la jeune femme, et qu'on ne disait pas la jeune fille. Que du coup, c'est petit à petit rentré dans ma tête, ah oui, c'est vrai, je suis adulte, je suis techniquement majeure, et que du coup, je rentre dans la catégorie jeune femme. Du coup, ce que ça implique en réalité d'être une femme, une fois qu'on a dit que c'est une personne même de genre féminin, c'est ce que tu renvoies aux autres. Être une femme, c'est une situation sociale. Être une femme, c'est pouvoir faire, on espérait pouvoir faire ce qu'on veut. Du coup, c'est quelque chose qui n'est pas conditionné à ce que tu fais dans la vie, à si tu es mariée ou pas. En tout cas, dans ma vision de ce que, essentiellement, c'est d'être une femme. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être, être réduit aux autres. Mais... être une femme, est-ce qu'on peut être une femme si on n'est pas inscrite dans la société, dans ce que la société voit de toi en tant que femme? Donc c'est dans ce sens-là que je dis c'est une situation sociale d'être une femme, c'est être perçue comme quelqu'un qui un jour devra avoir des enfants, c'est être quelqu'un qui à chaque fois que tu passes dans un groupe de personnes en tant que jeune femme, c'est être une potentielle épouse de quelqu'un que je connais peut-être, de la fille de je sais pas quoi, c'est être la fille de quelqu'un, c'est être la sœur de quelqu'un. Donc vraiment, c'est être situé socialement et aussi en étant, en ayant des attentes sur les parcours et le parcours que tu dois avoir. Tu dois être une femme indépendante, mais pas trop. Tu dois être une femme qui réussit, mais pas trop. Et du coup, c'est être confronté à ces choses-là et essayer de se frayer sa propre voie. Il y en a qui veulent pas se dérailler de cette voie-là et qui peut-être sur cette notion de liberté, on va dire, pourra être plus controversée de est-ce que c'est vraiment un choix libre que font certaines jeunes femmes. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, jeunes femmes de notre âge qui ne voient dans leur tête que de se trouver un mari, se marier, se caser, plaire à leur mari et à leur belle famille. Est-ce que finalement, c'est une forme de liberté ou une forme de soumission volontaire? Bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, elles font partie, on fait toute partie de ce même groupe de femmes et c'est quelque chose qui ne peut pas être essentialisé, en fait, la femme. Parce que une fois que tu es une personne humaine de genre féminin, tout ce qui rentre dans ce cadre-là, on est tous des femmes. Donc, c'est compliqué de le caractériser. Il y a des femmes qu'on adore, il y a des femmes qui, malheureusement, on a du mal à se dire on partage un genre avec ces personnes-là, on est associé à ces personnes-là. Mais on rentre tous dans cette catégorie-là.
On rentre tous dans cette catégorie. Et Sorna, tu veux rajouter quelque chose?
Non, j'étais très passionnée en écoutant Day.
C'est toujours un vrai plaisir pour moi de l'écouter, elle, de t'écouter aussi. Et je vais te le redire. Tu as des choses à faire. Tu nous dois des choses depuis un an et demi, Day. S'il te plaît, lance ce podcast pour traiter de toutes ces questions-là. Lance ce blog pour écrire sur toutes ces choses-là. Et j'espère que quand je te retrouverai, en tout cas, on va en reparler tout à l'heure. Sorna, pareil, après, mais on va en reparler tout à l'heure. On arrive presque à la fin. Et donc, je ne veux pas qu'on finisse sans... Vous savez, dans toutes les autres conversations, il y a deux questions que je pose aux femmes. Je leur demande si elles avaient 20 ans en 2022, qu'est-ce qu'elles auraient aimé savoir. À vous, je ne peux pas demander si vous aviez 20 ans en 2022. C'est vraiment pas juste, mais je ne veux pas poser cette question-là. J'ai deux questions pour vous, pour cette variante seulement. Si vous aviez 40 ans cette année, comment imaginez-vous votre vie? Et j'ai sa variante aussi de... Non, je vais vous la poser après. Si vous aviez 40 ans cette année, on va faire si vous aviez 40 ans cette année.
La question, oui.
Parce, qu'il y a, parce que Ramassa Ladia nous l'a bien expliqué, il y a une vie après 30 ans. Soyons d'accord là-dessus. Mm-hmm. Arrêtez, il y a une vie après 30 ans. Parce que je me sens particulièrement visée. Comment vous me regardez là? Il y a une vie après 30 ans.
Donc,
si vous aviez...
J'ai une amie qui fête ses 29 ans aujourd'hui. Et hier, on discutait de sa perspective d'avoir 30 ans. Et je lui ai dit, je la salue au passage, je lui ai dit que j'ai hâte d'arriver à 30 ans. Mm-hmm. Mais 40 ans, là, ça fait 20 ans.
C'est chaud.
Ce à quoi je pense en pensant à cette question, c'est j'ai deux approches de la question. Est-ce que j'aurai 40 ans en mode... Là, on est en 2022, j'ai une baguette magique, je me retrouve Ndeye qui a grandi.
À 40 ans.
Née en 2000, à 40 ans en 2022. Ou est-ce que, du coup, il y a une autre version qui serait j'ai 40 ans en 2022 parce que je suis née dans les années 80. Donc, c'est deux
réponses. Tu réponds à la question. Tu sais, le truc qui est très bien avec ça, c'est que tu réponds comme tu le sens. Tu réponds vraiment à cette question avec ce qui fit pour toi le mieux.
Ok. Bah, je vais répondre dans les deux sens, même, parce que j'ai deux réponses dans ma tête. Si c'était dans le cas de j'ai 40 ans en 2022, d'un coup de baguette magique, en ayant grandi juste dans les années où j'ai grandi, en mode la personne que je suis actuellement aurait la quarantaine, je pense que ce serait. J'aurais une vie de quarantenaire qui serait plutôt pas très orthodoxe, je pense. Et qui serait beaucoup plus. En tout cas, j'aurais des sens, on va dire. Comment dire ça peut paraître confus pendant ce.
Non, c'est pas confus, c'est très clair. On va dire, c'est très, très clair.
Ce serait pas. Comment on imagine. Ce serait pas la façon dont on imagine, on va dire, de façon très basique et très caricaturée, la femme de 40 ans. Je pense que je serais. Je sortirais autant que j'aurais la vingtaine. Si c'était ma personne de maintenant, je pense que je profiterais de la vie autant que dans ma vingtaine. Mm-hmm. Je pense que si c'est la personne que je suis qui a grandi maintenant, la situation de mariage, ce ne sera certainement pas un mariage très orthodoxe. Mais par contre, si c'était en ayant grandi dans les années, dans les années 80,
oui,
je pense 90, que je n'aurais pas été ma
mère. Oui, dans les années 90, oui.
90 Oui, 90, ouais. J'aurais pas eu la même trajectoire parce qu'en réalité, je pense que dans beaucoup des opinions, des prises de position qu'on a, c'est beaucoup forgé aussi par l'époque dans laquelle on a grandi, par le climat dans lequel on a grandi, parce qu'on parle du fait que on est une génération qui a du coup eu 20 ans pendant l'année Covid. Juste avant, on a. Une génération qui a grandi avec Internet, qui est très au fait de ce qui se passe partout dans le monde, qui est très au fait de la globalité des questions sociales, de comment est-ce que ça se retrouve partout dans le monde, de comment est-ce que tu peux être connecté à des gens partout dans le monde, comment est-ce que jusqu'au Sénégal, tu retrouves, t'es influencé par des choses qui sont passées comme MeToo, etc., que tu suis des procès qui se passent aux États-Unis, en France, etc. Je pense que c'est des choses qui t'éveillent et te confrontent à... Des réalités qui peuvent après se retrouver dans notre société sénégalaise, mais que tu vois venir ou de l'étranger ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose, je pense, une perspective que je n'aurais peut-être pas eue en ayant grandi 20 ans plus tôt. Mais je pense que globalement, c'est une question qui est compliquée. Je pense que c'est une question qui est plus compliquée à répondre que la question que tu poses d'habitude aux. À tes invités ou du coup parce qu'elles ont déjà eu 20 ans et c'est ça on va dire ce qu'elles auraient aimé faire, ce qu'elles ont vécu, comment elles ont vécu et comment elles le feraient différemment, mais nous on ne peut que fantasmer ce futur
ce que vous
serez cet âge là donc ouais, c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que je t'avoue c'est même flou dans ma tête, je me dis mais j'ai pas d'idée de personne, enfin j'ai plusieurs personnes de 40 ans dans mon entourage qui font des choses très très différentes. T'as celle qui est juste dans sa famille, des femmes au foyer qui s'occupe de ça, t'as Zubida qui fait ses projets de partout, Zubida qui est, dont on oublie même qu'elle a l'âge qu'elle a, avec laquelle on discute comme notre copine. Donc, oui, c'est compliqué de se dire que il y a quelque chose qui se passe quand t'as la quarantaine. En réalité, tu suis ta trajectoire personnelle et ta personnalité, quoi, au final, qui se prolonge dans les âges. Hasta me esté pega atrás de ser
Alors, je vais vous faire la variante peut-être. On essaye?
Oui, je veux bien.
Vous voyez-vous dans 20 ans?
Le sort, non, elle a pas répondu.
Vous voyez-vous dans 20 ans?
Elle a
tachagne sa réponse.
Je vais répondre. Je vais répondre maintenant.
Oui, vas-y, réponds-nous. Et après, je vous fais la variante.
Okay. Dans 20 ans, je me vois toujours me dire que j'avais 19 ans hier, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe?
Ma vie est
toujours
bugué
quand on me demande mon âge, parce que je bug toujours. Et garder cette âme d'enfant à faire la fête, à sourire, garder la pêche, et toujours continuer mes soirées avec Ney.
Ça, c'est pas très vrai, mais bon, je peux vous laisser y croire, mais il n'y a pas de problème.
Si on peut assumer le lendemain,
on rajoute ça. Moi, je n'assume plus, du tout le lendemain, sincèrement. Je vais me lever parce que je continue à me faire croire que je suis capable, mais je vais me lever et tout ce que tu veux. Mais là, par exemple, typiquement là, j'ai un mal de tête qui ne passe pas et je sais exactement pourquoi. Donc voilà, je vous dis ça comme ça en passant. Maintenant, certainement, vous verrez plus de sport, plus de... Voilà, continuez, il n'y a pas de problème.
J'espère que j'aurai toujours cette capacité quand même à danser jusqu'à 7h du matin avec Ney.
Et Yondaï-san. Aïe, ouais.
Voilà,
un problème.
Et à aussi garder cette curiosité de m'intéresser à plusieurs sujets. Parce que, c'est une remarque qu'on m'a fait il y a 4 ans en arrière, me dire que à partir de 26 ans, ton cerveau a fini de se former, donc tu vas avoir du mal à garder les choses en tête, à bosser ou à réfléchir sur certains trucs, et c'est quelque chose qui me fait très peur, parce que j'aimerais garder cette capacité à ou cette volonté à aller chercher les infos, me perdre dans les recherches. J'espère qu'à 40 ans, je pourrai, parce que sinon, je vais mal vieillir.
Non, mais j'ai l'impression de... Je me fais l'objet d'être, je ne sais pas moi, du néolithique supérieur.
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Mais
ce sont des craintes.
Alors, je vais envoyer cet épisode à professeur Fatso, à Chama Kamarasi, mais toutes les femmes qui sont passées par là, je vais leur dire ce que vous avez dit. Je leur envoie l'épisode-là spécialement.
Oui.
C'est un piège.
Mais c'est un piège, Kay. C'est un très
piège. Elle est en train de faire une campagne contre nous, là. Ça, c'est un piège.
Mais clairement, là, je vais remonter. Je vais aller les voir et je vais leur. Voilà, exactement. C'est quoi? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? Mais où vous voyez dans 20 ans? Parce que j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans 20 ans et de pouvoir s'asseoir à nouveau et avoir cette mise en perspective-là.
J'espère que ce ne sera pas la même chose que dans la vingtaine. Parce que c'est
brutal. Je ne sais pas.
Comme
disent mes enfants, le football a changé depuis le temps. Donc, je ne sais pas. Certainement, ça va rechanger encore.
Ouais.
Ney, où te vois-tu dans 20 ans?
Dans 20 ans, Inch'Allah, j'espère que je serai arrivée à mes objectifs professionnels. Là, en ce moment, je suis dans un truc où mes objectifs académiques et professionnels, c'est assez important. Et du coup, j'espère que je pourrai accomplir ça. J'espère que j'aurai une position qui soit stable. Je pense que c'est les trucs basiques d'avoir avoir une situation stable, etc.
Être établi, comme aurait dit Koumba Touré.
Voilà, exactement, c'est ça. Mais j'espère aussi, quelque chose qui me fait peur, un peu dans le sens de ce que Sofna Maguette disait, c'est que dans les prises de position, dans la volonté d'engagement que j'ai, on me dit souvent, non mais c'est la jeunesse, ça, c'est la faute de la jeunesse.
Ouais, ça, ça fait peur.
Hein. J'espère sincèrement ne pas. C'est quelque chose qui me fait très peur et je me dis que le fait que ça me fasse peur, c'est déjà un bon signe que je sens venir que ouais. Tu peux grandir et devenir plus aigri, devenir plus relaxante, plus résistante au changement, à l'opposition, etc. Donc j'espère que j'aurai toujours autant cette curiosité-là, comme l'a dit Sofna Maguette, et surtout que bah, du coup, en ayant une vie stable, je pourrai du coup m'investir complètement dans des projets qui m'intéressent, comme je disais, dans des choses de la vie publique, de la vie collective. Je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que ce soit dans les médias ou ce qui fait peur à tout le monde dans la politique, la grande politique. Donc, ouais, ce serait, on va dire, dans tous les cas, dans une forme d'engagement, en tout cas. J'espère sincèrement que je pourrai faire quelque chose de cette volonté d'engagement-là, de la concrétiser, d'essayer de, bah, juste de faire du positif. C'est assez idéaliste, on va dire, comme façon de faire, mais j'espère pouvoir m'épanouir dans une vie personnelle, tout en m'investissant dans une vie collective. Ça, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Et donc, donc avec le mari, peut-être, enfin. Les enfants, c'est très compliqué. Dans ma tête, c'est très mignon, les musulmans, quand je les vois, mais après, je pense que je serai avec les enfants. Non, là, je me dis, je ne veux pas en avoir plus.
Sur l'engagement en politique, en fait, de tête, ça me fait repenser que ce soit Diatou Cissé à Pendambo qui le disent qu'aujourd'hui, si elles avaient 20 ans, elles se seraient encore plus engagées et peut-être s'engager réellement en politique. Parce que quand tu as cet engagement militant-là, des fois, tu te rends compte que tu peux avoir des limites par rapport à ton action si tu n'arrives pas à toucher les leviers qui vont faire que les changements puissent s'opérer. Donc oui, si tu as cette volonté de t'engager en politique, je pense que c'est une excellente idée. Et aussi, il y a l'autre chose aussi, quand on milite beaucoup sur ces questions, Sofna a parlé de la peur après 26 ans. Moi, je considère en fait que la version de moi que je suis aujourd'hui s'est façonnée ces 10 dernières années, pas quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, quand j'étais entre 20 et 30 ans, j'étais classée comme étant quelqu'un de brillant, tout simplement, intelligente, brillante, je suis bien en société, etc., et tout ce que tu veux. Mais cette profondeur dans la réflexion ou dans l'analyse ou dans la compréhension des enjeux, je l'ai eue beaucoup plus tard. Ce que j'avais par contre, c'était la révolte et l'indignation. Ça a toujours traversé ma vie, d'avoir juste de la révolte et de l'indignation, mais de ne pas forcément comprendre tous les mécanismes derrière, de ne pas savoir comment agir en cohérence avec ces choses-là. Et ça, j'ai appris à l'acquérir après 30 ans. Et encore aujourd'hui, je considère qu'il y a des pans, je ne considère pas, c'est une réalité, il y a des pans entiers que je dois aller explorer, que je dois aller découvrir et sur lesquels je dois continuer à grandir. Donc pour moi, cette peur-là, elle est normale chez vous, mais moi, la quantité de connaissances, je trouve que je suis une meilleure personne maintenant avec tout ce que je sais. Et ce que j'ai voulu toujours garder aussi, c'est quand Day parlait, parce que quand on milite, quand on est dans l'engagement, quand on voit toutes ces quantités de violences-là, il est facile de tomber dans ce qu'on va labelliser aigri. J'espère pour vous, et ça c'est ma prière pour vous, en tout cas, si ça peut servir de prière, que vous ne perdrez jamais la capacité de rire, la capacité de déconner, de rire de vous, de rire de situations, de vous asseoir tout simplement et de savoir profiter de la vie et de ne pas être tout le temps, on va dire, accablé avec tout ce qui vous tombe dessus. Donc vous aurez compris que nous sommes arrivés quasi à la fin et nous sommes vraiment à la fin. Et la dernière chose, que ce soit pour Sofna, que ce soit pour Ndaye, j'espère très sincèrement que d'ici l'année prochaine, tu nous lanceras tous les projets qui dorment dans tes tiroirs. J'espère que j'aurai la chance d'écouter le podcast, au moins le podcast. J'espère que j'aurai la chance de lire un petit peu plus tes papiers, que ce soit sur toutes les questions sociales qui te touchent, toutes les questions politiques qui t'interpellent, tout ce positionnement-là. Sofna, j'espère que cette passion de livre, que tu vas la concrétiser quand on se reparlera l'année prochaine. J'espère que tu auras fait ce travail-là pour toi, que tu auras dépassé un certain nombre de choses, un certain nombre de freins et que tu vas y aller. Et j'espère que dans 20 ans, quand on se retrouvera et que je serai peut-être pas trop bien dans ma tête à ce moment-là de ma vie, qu'on pourra se rasseoir et revoir à nouveau cette conversation-là. Je ne sais pas, je ne pense pas, parce que pareil pour moi, me projeter dans 20 ans, c'est fantasmer ce qui va se passer dans 20 ans. Je n'en ai aucune idée claire, à part avoir vu toutes ces femmes autour de moi et en espérant être au moins une partie de ce qu'elles sont ou de ce qu'elles ont été. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cet épisode de Conversation Féminine.
Merci à toi.
Merci à toi de nous avoir invités.
Merci beaucoup, Sorna. Merci beaucoup, Ndaïcha. Vous écoutiez le podcast Conversation Féminine. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Si ce n'est pas encore fait, allez sur Apple Podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis.